Vous écoutez RTL.
RTL, il est 7h.
RTL Matin.
Le 7h, Adeline François, Yves Calvi.
Bonjour Adeline.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce qui coince dans la loi El Khomri.
Oui, dans 40 minutes maintenant, Manuel Valls va s'expliquer sur RTL. Mais avant cela, nous avons détaillé tous les points de discorde du projet de loi sur le travail. La riposte syndicale va s'organiser dans la journée. À la une également, la jungle retient son souffle. La préfecture prévoit d'évacuer une partie du bidonville de Calais à partir de 20h ce soir. 1 millier de migrants concernés? Non, 3 000, disent les associations qui n'ont pas la même calculette que les autorités. Ce sont des mots que la Polynésie française attendait depuis plus de 30 ans. François Hollande a reconnu cette nuit l'impact des essais nucléaires sur l'environnement et la santé de la population. Dans ce journal aussi, un cessez-le-feu en Syrie annoncé hier soir par Moscou et Washington, mais l'opposition syrienne pose des conditions. Et puis question pour un champion, nouvelle version. RTL a suivi un club de fans en train de regarder hier soir la première émission sans Julien Lepers.
Dès la fin de votre journal Adeline, 3 minutes pour comprendre comment nos portables vont littéralement bouleverser notre vie quotidienne. Désormais, tout peut être contrôlé par nos smartphones, notre chauffage, notre alarme, notre voiture. Probablement les seniors demain. Et à 7h15, on vous emmène dans les coulisses du Salon international des mobiles à la découverte des toutes dernières innovations.
RTL Matin.
La pédagogie, plutôt que passage en force, le gouvernement s'évertue depuis hier à justifier le projet de loi El Khomri sur le travail.
Il n'y aura pas de recours au 49-3, a martelé Manuel Valls hier en déplacement en Alsace aux côtés de Myriam El Khomri et d'Emmanuel Macron. Le texte est très critiqué à gauche depuis la semaine dernière, tandis que les syndicats appellent à la mobilisation. Ils vont définir dans la journée les modalités de cette mobilisation. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
On va démêler ce matin avec vous le vrai du faux de ce projet de loi sur le travail. Les syndicats disent qu'il est trop favorable au patronat et c'est aussi ce que disent les militants de gauche, notamment Martine, que je vous propose d'abord d'écouter. C'est Yannick Holland qui l'a rencontré hier à Mulhouse.
Je suis remontée parce que tous les matins je me lève à 4 heures pour aller travailler à 5 heures comme femme de ménage. J'ai 62 ans et j'y vais. Hein. J'étais communiste, après je suis devenue socialiste, mais maintenant j'ai arraché ma carte. C'est des gens qui se disent de gauche, mais ils sont de droite. Je suis désolée. Moi, je suis de gauche, oui. Moi, mettez-moi au gouvernement, vous allez voir, moi, ça va changer. Mais bientôt, on n'aura plus de droits, on aura juste le droit d'aller travailler. Ça devient grave, non?
On aura juste le droit d'aller travailler. Marie-Bénédicte Allaire, Manuel Valls martèle depuis hier que ce texte protège aussi les salariés parce qu'il introduit plus de sécurité. Vrai ou faux?
Écoutez, il donne un contenu au compte personnel d'activité. C'est un dispositif qui va entrer en vigueur l'an prochain, qui va permettre à tous les actifs de savoir beaucoup plus facilement où ils en sont dans leur droit à la formation, leur compte pénibilité par exemple. Et ces droits vont les suivre tout au long de leur vie professionnelle jusqu'à leur retraite. Et puis, le projet donne aussi un droit à la déconnexion. À partir de quel moment je peux ne plus répondre aux courriels ou aux appels professionnels, et toutes les entreprises devront négocier là-dessus.
Marie-Bénédicte, depuis la semaine dernière, les détracteurs du texte, notamment les syndicats, disent aussi que c'est la fin du CDI. Là aussi, vrai ou faux?
C'est faux, le CDI reste la règle, mais ce qui est vrai, c'est qu'on redéfinit les motifs de licenciement économique, ce qui le rendra plus facile. Et puis en cas de litige, quand un salarié va aller au prud'homme, en l'état actuel du texte, il touchera 15 mois de salaire maximum à partir de 20 ans d'ancienneté. C'est moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart du temps.
Et puis alors, le nœud du problème, c'est la durée du travail dans ce projet de loi. Les syndicats disent que c'est la fin annoncée des 35 heures. Vrai ou faux?
Faux, parce que les 35 heures, c'est toujours le seuil au-delà duquel on est payé en heures supplémentaires. Mais vrai, ces heures sup pourront être moins bien rémunérés qu'aujourd'hui. S'il y a un accord d'entreprise en ce sens, le plancher, ça sera 10% contre 25% aujourd'hui.
Merci pour ces explications, Marie-Bénédicte Allaire du service économie de RTL.
Et donc le Premier ministre Manuel Valls, invité exceptionnel d'RTL, dès 7h40 avec Olivier Mazerolle et François Langlais. Puis à partir de 8h10, avec vous les auditeurs, venez interpeller le chef du gouvernement. On vous appelle dès maintenant au 3210.
François Hollande va suivre tout ça de loin, de très loin même, puisqu'il est en Polynésie française et va s'envoler d'ici quelques heures pour le Pérou. Alors avant de quitter les îles, il a accédé cette nuit à une revendication très ancienne des Polynésiens, la reconnaissance de l'impact des essais nucléaires. Écoutez-le.
Sans la Polynésie française, la France ne se serait pas dotée de la force de dissuasion. Alors cette contribution, je veux la reconnaître solennellement aujourd'hui. Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires
François Hollande, au micro RTL de Christophe Decroix, cette nuit en Polynésie française.
RTL, 7h05.
À Calais, la pression monte avant l'évacuation d'une partie de la jungle.
Oui, c'est ce soir à 20h qu'expire l'ultimatum posé par la préfecture du Pas-de-Calais pour l'évacuation de la zone sud, où vivent des centaines et des centaines de migrants. L'expiration de l'ultimatum pourrait être suivie d'une évacuation manu militari, sauf si des associations d'aide aux migrants obtiennent gain de cause devant la justice. Le tribunal doit en effet se prononcer dans l'après-midi sur une suspension de cette évacuation. Franck Hanson, vous êtes à Calais pour RTL. L'enjeu, c'est le nombre de personnes à évacuer.
Oui, la juge saisie du dossier doit se rendre tout à l'heure sur le campement, vérifier le nombre d'occupants de ces cabanes de fortune, avant de statuer dans l'après-midi sur la pertinence d'un démantèlement. Les associations humanitaires réclament plus de temps. D'après leur comptage, le nombre de migrants concernés, 3400, est trois fois plus important que les chiffres de la préfecture. Et les solutions de relogement insuffisantes, Vincent de Coninck, du Secours catholique à Calais.
Il ne s'agit vraiment pas pour nous de défendre un bidonville. On souhaite qu'il disparaisse. Les solutions qui sont proposées aujourd'hui ne nous paraissent pas satisfaisantes. Le centre d'accueil provisoire est sous-calibré.
Selon les associations, inquiètes aussi pour le sort des mineurs isolés, les exilés pourraient à nouveau être dispersés dans des squats encore plus précaires. En attendant, dans le bidonville, ces Afghans n'ont pas renoncé à leur projet.
Tous les jours, j'essaye d'aller en Angleterre, mais sans succès. Ma famille est déjà là-bas. Pour aller dans les containers, il faut donner son empreinte.
Et si le tribunal lillois confirme l'évacuation, elle se fera de manière progressive, étalée sur plusieurs semaines.
Franck Hanson, à Calais pour RTL.
Alors justement, combien y a-t-il exactement de migrants à Calais? C'est une des questions que nous poserons à Manuel Valls dès qu'il nous rejoint tout à l'heure.
Washington et Moscou ont annoncé hier soir un cessez-le-feu en Syrie qui doit encore être validé par le régime et l'opposition pour pouvoir entrer en vigueur samedi. Vladimir Poutine a téléphoné hier soir à Barack Obama pour évoquer avec lui cette trêve à laquelle toutes les parties prenantes au conflit doivent adhérer avant vendredi matin, à l'exception bien sûr de Daesh et de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Hier soir, le régime de Damas a aussi annoncé qu'il comptait organiser le 13 avril prochain des élections législatives dans tout le pays. En Angleterre, David Cameron a défendu mordicus hier devant le Parlement le compromis arraché à Bruxelles pour éviter un Brexit qui, selon lui, menacerait la sécurité économique et nationale du pays. Au même moment, sa monnaie, la livre sterling, chutait lourdement, affichant son niveau le plus faible depuis 7 ans face au dollar.
RTL, 7h07.
On parle à présent de l'épidémie de grippe avec un pic attendu à la fin de la semaine prochaine. Et vous vous demandez peut-être si ça vaut encore le coup de se faire vacciner.
Oui, cette année, le virus est certes d'une intensité modérée, mais il reste dangereux pour les personnes vulnérables. Alors, vaccin ou pas vaccin, eh bien, il est encore temps, nous dites-vous, Élodie Guillard.
Oui, il reste en effet quelques jours pour se faire vacciner contre la grippe. Une recommandation qui vise les personnes les plus fragiles, celles âgées de plus de 65 ans ou souffrant d'une maladie chronique, et puis les femmes enceintes. Car cette population dite à risque n'a cette année encore pas vraiment suivi les recommandations. François Bourdillon est le directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
On est à 47% de couverture vaccinale. C'est encore faible. Il faut restaurer la confiance parce que la vaccination, c'est comme le meilleur moyen de se protéger contre la grippe.
Et même si la grippe semble cette année beaucoup moins virulente que l'an dernier, l'épidémie est loin d'être terminée. Le pic devrait être atteint d'ici une dizaine de jours seulement. Mieux vaut donc continuer à appliquer les conseils simples pour éviter la transmission du virus, comme se laver les mains très régulièrement.
Élodie Guillard du service santé de RTL. Le football avec d'abord un résultat en Ligue 2. Metz, candidat à la montée, descend du podium après s'être incliné à Nîmes 2-1 hier soir. Ce soir, la Ligue des champions avec la suite des huitièmes de finale aller.
C'est pas mal. Hein.
Et deux matchs énormes même à suivre. Arsenal, FC Barcelone, Juventus Turin, Bayern Munich.
La télévision, nouveau plateau, nouveau présentateur et nouvelle formule. L'émission Question pour un champion a changé d'air hier soir.
Et oui, c'était la première de Samuel Etienne qui remplace désormais Julien Lepers. Alors, Samuel Goldschmidt, vous vous êtes invité carrément hier soir à 18h05 chez Viviane, la présidente du club Question pour un champion de Thionville-en-Moselle.
Allez.
Bonsoir à tous. Très fier aussi de vous retrouver pour mon premier Question pour un champion.
Top, je suis Viviane Roussel. Je suis présidente du club Question pour un champion de Thionville. Et quand on me demande mon avis sur Samuel Etienne, je suis...
L'ancien français.
Embêté.
La présentation est un peu molle, je trouve. Il a une voix qui ne va pas avec le jeu. Ça manque d'enthousiasme.
Qu'est-ce que vous aimez sur la piste ?
Il faut aller beaucoup plus vite pour les 4 à la suite parce que là, il a posé 6 ou 7 questions alors que normalement, il doit en poser minimum 8.
C'est une bonne réponse.
Mais les règles du jeu sont restées les mêmes et peu à peu...
Disons que je révise un peu mon jugement et il est moins mauvais que je ne le craignais.
Au club, après l'émission, on consent à sauver le soldat Étienne.
Je trouvais très sobre, très bien. Un peu tendu.
Ben, moi, j'ai trouvé aussi très sympathique.
Il fallait que je tende l'oreille, en fait. Enfin, je veux dire, il n'a pas la voix, mais bon, c'est ses débuts. Hein.
Bravo.
La conclusion appartient à la présidente.
Il faut qu'il ait un petit peu plus d'enthousiasme, qu'il soit moins policé, disons. Hein. On s'habituera. Hein.
C'est une bonne réponse.
Aux gens moins
policés.
Merci Samuel Goldschmidt.
Allez, à Samuel Etienne, on va dire allez, un petit peu plus d'enthousiasme. Hein. C'était le journal d'Adeline François.